sans être vu, en fait.
Motus et Bouche Cousue vous emmènent découvrir cet univers empli d'amour interdit par l'Église catholique. Femmes et enfants, secrets de prêtres, c'est ce vendredi à 13h sur La Première et à tout moment sur lapremière.ch.
Monumental. Monumental, Joanne Ducey.
En nouvelle diffusion.
Dans la solitude du désert, les bâtisseurs de Petra ont ciselé des bâtiments somptueux qui rappellent étrangement l'architecture gréco-romaine. Leurs mains habiles ont transformé une falaise de grès en un théâtre de 8000 places. Du flanc d'une montagne est né un édifice imposant, haut de 50 mètres. Qui étaient donc les créateurs de ces monuments stupéfiants? Et comment ont-ils réussi à les tailler à même la roche?
Bonjour, merci pour cet amical accueil. Je me présente, je suis Christian Auger, directeur de recherche émérite, comme on dit pompeusement, c'est-à-dire à la retraite, au CNRS, et affecté à l'Institut français du Proche-Orient à Amman. Je dirige la mission archéologique française de Petra au Wadi Rum, qui regroupe chaque année, depuis sa création en 2001, plusieurs opérations sur ces deux sites majeurs de l'ancien domaine nabatéen. La Nabatène, le royaume nabatéen, donc un royaume antique qui avait Petra pour capitale quelques siècles depuis le 4e siècle avant Jésus-Christ jusqu'à sa prise par les Romains en 106 après Jésus-Christ.
L'étrange massif de calcaire et de grès que l'érosion a modelé de ces figures inquiétantes en plein cœur du désert jordanien, entre mer morte et mer rouge dans ce monde minéral et sans vie, dans l'immensité pétrifiée des Djebel, s'élève le labyrinthe de Petra.
Vous vous souvenez de la première fois que vous avez vu ce site de Petra? Vous arrivez à nous raconter?
Oui, ce fut évidemment un émerveillement et évidemment à l'époque, c'était dans les années 70, largement avant la réorganisation touristique intervenue en 1985-86, à l'époque on devait à l'entrée du site prendre un cheval dans le village moderne de Wadi Moussa, et on conservait ce cheval et son conducteur jusqu'à la fin de la journée. On ressortait en principe sur le même animal, ce qui n'était pas toujours le cas. Mais c'était une astreinte, car je suis toujours très très mauvais cavalier, et j'aurais bien préféré aller à pied. Il faut reconnaître cependant que l'étendue du site fait que c'est une sérieuse, très sérieuse économie de fatigue. C'est évidemment un très très beau site naturel. Il faut voir que même quelqu'un qui serait allergique totalement aux vieilles pierres trouverait de quoi se distraire, s'intéresser et se régaler dans Petra pendant plusieurs jours à cause non seulement des rochers mais également de la faune et de la flore qui sont particulièrement intéressantes dans la région. Cela dit, c'est un site naturel de refuge, un creux entre des falaises très hautes, verticales, et un site d'accès relativement difficile, ce qui explique qu'une agglomération qui a été installée ait pu d'abord se développer comme un refuge. Par la suite, c'est devenu une ville. Une ville même très importante, puisque les rois nabatéens y ont installé leur capitale à un moment donné, on ne sait pas exactement lequel, au cours de la période hellénistique, c'est-à-dire entre le 4e siècle au moins avant Jésus-Christ et le 1er siècle avant Jésus-Christ.
Cette plaque tournante polarise pendant 2 siècles tout le négoce qui transite entre l'Asie et l'Europe.
Alors, au départ, oui, c'était une plateforme du commerce. C'était probablement au départ une population nomade, relativement peu nombreuse, qui s'était enrichie en contrôlant le commerce caravanier sur les routes commerciales de l'Arabie. Petra a dû devenir leur entrepôt principal à l'extrémité de ces routes qui traversaient l'Arabie, et notamment de la route qui venait de l'Arabie du Sud, le Yémen, par laquelle transitait l'encens. L'encens était un produit extrêmement utilisé dans toute l'Antiquité, et en particulier dans le bassin méditerranéen. Il n'y avait pas que l'encens, hein, il y avait aussi d'autres produits précieux qui étaient très appréciés dans tout le bassin méditerranéen. Le rôle des caravaniers nabatéens était plutôt un rôle de transitaire, c'est-à-dire qu'ils n'assuraient pas le transport sur toute la longueur de ces routes, mais ils devaient assurer le contrôle du transport, la sécurité du transport et le transport lui-même peut-être sur les pistes, les routes qui reliaient Petra à la côte méditerranéenne, en particulier à Gaza, qui était leur principal débouché plusieurs siècles apparemment avant Jésus-Christ, et à Alexandrie.
À l'extrémité de ce goulet colossal, s'offre aux yeux stupéfaits du voyageur un monument sublime, entièrement taillé dans le rocher, le Kazneh Firaoun, ou trésor de Pharaon.
Oui, c'est le monument le plus connu de Petra, celui qu'on voit sur la plupart des affiches, les couvertures d'albums et la plupart des documents figurés. C'est à juste titre, hein, c'est un monument entièrement taillé dans le rocher, absolument extraordinaire. Il mesure une bonne quarantaine de mètres de haut et entre 20 et 30 mètres de largeur. L'architecte a dû concevoir en 3 dimensions, évidemment, tout ce développement, et l'harmonie de l'ensemble est tout à fait surprenante. Harmonie des proportions, mais également harmonie des couleurs, car le trésor mérite d'être vu dans les meilleures conditions de lumière. Ce n'est pas facile, hein, le matin, il n'est pleinement éclairé par le soleil que pendant une demi-heure ou 3/4 d'heure, et il y a une bonne heure l'après-midi où la lumière réfléchit en fait ressortir la teinte qui est rouge, rose, un peu orangée, tout dépend des jours.
Rien ne prépare le visiteur à ce qui l'attend lorsqu'il débouche à la lumière. Devant lui, le plus fabuleux édifice de Petra, le Kazneh.
Alors, on ne sait pas exactement quelle était la fonction du monument. C'est évidemment funéraire, ça a un caractère funéraire. Ce grand monument pourrait très bien être un tombeau probablement destiné à un très haut personnage ou à un couple de très hauts personnages. On pense évidemment à des rois et des reines, car il y a des alvéoles dans la grande salle à laquelle la colonnade donne accès, la porte donne accès, qui pourraient très bien contenir des cercueils.
Dans les étroites vallées qui rayonnent autour de Petra, règne partout le monde des morts.
mais ce n'est pas absolument sûr, et de récentes fouilles jordaniennes dans les années 2003-2005 ont mis au jour, au pied du monument, légèrement en avancée, les restes de tombeaux un peu plus anciens, qui étaient, eux, des tombeaux importants, qui ont été ensuite arasés pour la taille de la Raznée. La Raznée est en fait un monument qui était vu en premier étage. Il y avait un très grand escalier d'accès et un palier d'allée à la base. Et c'était encore plus monumental dans l'Antiquité qu'aujourd'hui. Alors, la façade était effectivement surmontée d'une urne en pierre, comme beaucoup de monuments funéraires. Là, en l'occurrence, c'est un petit édifice arrondi, ce qu'on appelle une tolosse, qui porte l'urne. Cette urne est évidemment pleine, elle est dégagée dans le grès, mais une croyance locale des habitants de Petra, jusqu'apparemment au XIXe siècle, était que cette urne renfermait le trésor du pharaon, si bien que beaucoup de vieilles gravures ou des dessins du 19e siècle, de voyageurs occidentaux du 19e, montrent les bédouins d'alors tirant au fusil sur cette urne pour en faire tomber les pièces d'or.
Et c'est pour ça qu'on voit des impacts de balles.
Voilà, on voit des impacts de balles, oui, non seulement sur l'urne, mais sur une partie de la façade et les reliefs, les personnages sculptés sur le haut et aussi même sur le bas de la façade. Il a encore des secrets à nous livrer. Était-ce un tombeau? Était-ce un temple funéraire? En tout cas, ce qui aurait beaucoup de secrets à nous livrer, c'est probablement le reste de la place qu'il faudrait... Enfin, tout l'espace, c'est un creux assez grand qui s'étend devant la Raznée. Et comme je vous le disais, le niveau antique est beaucoup plus bas, 5-6 mètres plus bas. Mais évidemment, une fouille dans ensemble est envisageable, mais ce devrait être effectué assez vite, d'un mouvement continu, si j'ose dire. Et comme cela poserait d'énormes difficultés pour la fréquentation, pour le passage des visiteurs, et également aussi pour la gestion de la fouille.
Avant d'arriver sur cette place, on longe une espèce de long couloir dans la roche.
Tout à fait, c'est ce qu'on appelle le sikh, c'est-à-dire le défilé. Et c'est un long couloir sinueux d'un peu plus d'un kilomètre qui était le lit du cours d'eau, le Wadi Moussa, la vallée de Moïse. Il y avait jusque dans les années 60-70 encore de l'eau qui coulait par là. Et ce ruisseau qui a contribué à creuser ce défilé, c'est un défilé extrêmement étroit, sinueux, qui traverse les grès blancs puis les grès rouges et qui est bordé de falaises très hautes, d'une bonne centaine de mètres de hauteur, si bien que la circulation est assez agréable. Non, c'est maintenant une promenade jusqu'à la Raznée que tout le monde ou à peu près peut se permettre. Le sol a été aménagé. L'ensemble du sikh a été fouillé et étudié par une équipe jordano-suisse à la fin des années 90. Et c'est devenu effectivement une partie très agréable du parcours, du moins à l'aller. Parce que le parcours actuel des visiteurs impose de repasser par là au retour, et on s'aperçoit à ce moment-là que ça monte, et que ça monte même beaucoup. Et quand on a plusieurs kilomètres dans les jambes, c'est évidemment pas facile pour tout le monde.
Cette surprenante architecture qui marie les falaises brutes aux orgueilleuses façades hellénistiques constitue l'une des plus fascinantes conjonctions de l'art avec la nature. Et la main de l'homme a discipliné la sauvagerie sans craindre de mettre en valeur les diaprures de la roche. car les oxydes de fer ont doté le grès de teintes fantastiques.
Tout de suite sur la première, des nouvelles de la route.
Infotrafic RTS.
Le trafic est perturbé sur l'autoroute Yverdon-Mora à l'approche du tunnel d'Arissoul en direction de Mora en raison d'un véhicule en panne. La voie de droite est fermée dans l'ouvrage.
Monumental.
Mais Petra, la ville aux monuments taillés dans la pierre, disparut pendant 5 siècles de la mémoire des hommes. Et c'est l'explorateur suisse Burckhardt qui devait la découvrir en 1812 lors de ses voyages en Arabie. Déguisé en bédouin, il en visite les ruines, mais n'ose prendre le moindre croquis de peur d'être démasqué.
Je suis Christian Auger, directeur de recherche émérite au CNRS. C'est en 1812 qu'un explorateur suisse, Jean-Louis Burckhardt, qui arrivait à pied, parce qu'il avait dû vendre son cheval, qui arrivait depuis le nord et allait vers l'Égypte, a pu parcourir très rapidement Petra en l'espace d'une journée. Sous un prétexte fallacieux, évidemment, il était déguisé en commerçant indien, nous dirions aujourd'hui pakistanais, musulman, et a prétendu vouloir sacrifier une chèvre au prophète Aaron, dont le tombeau est proche de Petra, ce qui lui a permis de visiter, accompagné d'un guide, de visiter très rapidement le site, disons de traverser le site et d'en revenir. Ce qu'il a vu l'a convaincu qu'il s'agissait d'une ville antique importante et, arrivé au Caire, il a pu ensuite l'identifier à l'antique Petra.
Mais les Bédouins de la région savaient que Petra existait, mais ils gardaient le secret.
Alors, les Bédouins gardaient le secret en grande partie parce que, c'est une croyance qui a duré jusqu'en plein XXe siècle, en grande partie parce qu'ils pensaient que c'était les terres de leurs ancêtres, ou qu'ils prétendaient que c'était les terres de leurs ancêtres, et ils craignaient fort que les Occidentaux, ces explorateurs étrangers, qui avaient des indications qu'eux-mêmes ne maîtrisaient pas, ils craignaient fort de se voir dépossédés de leurs trésors par ces intrus. Burckhardt lui-même et plusieurs autres explorateurs redonnent tous les réflexions des Bédouins. Certains leur disent « Attention, j'ai bien vu que tu avais des indices que je ne possède pas et je ne voudrais pas que pendant la nuit, les pièces d'or ou le trésor contenu dans les pierres ne s'envolent vers ton pays et que j'en sois dépossédé. »
Mais de trésors, il n'y en avait pas.
De trésors, si, il y en a évidemment, parce que, mais pas de trésors au sens d'espèces sonnantes et trébuchantes, comme l'entendaient probablement ces braves bédouins et leurs contemporains. Ils n'étaient pas les seuls.
Il y a d'autres bâtiments intéressants sur ce site de Petra.
Donc le premier monument, grand monument creusé dans le rocher lui aussi, qu'on voit après le trésor, c'est le théâtre, très classique d'aspect, mais qui remonterait bien au 1er siècle après Jésus-Christ, à l'époque où le royaume nabatéen était encore indépendant, et qui a été évidemment complété et embelli à l'époque romaine.
En longeant ce dédale creusé par les flots rares mais tumultueux du Wadi Moussa ou rivière de Moïse, le voyageur parcourt l'antique route par où passèrent des milliers de caravanes chargées de richesses provenant de l'Arabie, de l'Inde ou de la Chine. Gardé par cet obscur défilé que surplombent de hautes murailles de roc, Petra, la mystérieuse, pouvait s'enrichir sans craindre des incursions des nomades du désert.
Un peu plus loin, le Wadi Moussa, on suit le cours du Wadi Moussa, donc le ruisseau, et l'on voit toute une série de très grandes façades de tombeaux,
que l'on appelle les tombeaux royaux, mais sans avoir aucune indication sur leur destinataire réel. En tout cas, ce sont des façades orientées vers l'ouest qui sont absolument superbes, en particulier pour les dégradés de couleur dans le grès.
La vaste cuvette où s'élevait jadis la ville est ceinte de montagnes dont les falaises abritent des centaines de tombeaux taillés dans le roc. De toutes parts, leurs hautes façades, imitant les architectures civiles aujourd'hui écroulées, rythment les parois rocheuses. Comme une cité de troglodytes, Petra ne montre plus que ses sépultures dont les portes baient sur le silence et l'abandon.
Ensuite, traverse les restes de la ville antique et on a très vite sur la droite un petit monument couvert par un très vieil arbre protégé qui était une fontaine monumentale, un nymphée, comme on dit, donc un monument des eaux, probablement construit à l'époque romaine. Et enfin, donc, cette rue aboutit un arc, une entrée monumentale en forme d'arc. L'arc a été construit d'ailleurs au début de la domination romaine, qui, de l'autre côté de l'arc, on se trouve devant une longue esplanade d'allées qui se termine par le temple Kasredbin Firaun, c'est-à-dire le château de la fille du pharaon, un grand temple d'époque nabatéenne, mais qui a continué à fonctionner évidemment à l'époque romaine, avec tous les bâtiments annexes de son aire sacrée. C'est le site de notre mission principale, de la mission française, qui travaille sur les abords donc de ce temple du Kasredbint.
C'est un site majeur pour la Jordanie que Petra.
Alors, c'est un site majeur à beaucoup d'égards. D'abord parce que, évidemment, c'est le site principal du tourisme. Et aussi parce que, actuellement, l'installation des touristes est bien organisée. Il faut voir que les Bédouins qui ont été déplacés du site lorsqu'il a été classé au patrimoine mondial de l'UNESCO en 1985-86. Donc les Bédouins ont été déplacés et installés dans d'autres villages, en particulier celui de Oum Sayhoun, qui est devenu maintenant une véritable petite ville. Et actuellement, donc ces populations organisent souvent des visites dans des environs de Petra, des randonnées. Je pense que actuellement on peut visiter Petra à son rythme, balade à pied, en chameau, à dos d'âne, en 4x4, campement sous la tente ou dans des maisons, repas bédouins, visite de lieux mal connus par les touristes et par beaucoup d'habitants aussi du pays, et ainsi de suite.